Chapitre 9. Patrice et Coralie. Tout se passa comme l'avait prédit M. Desmalions. La presse ne parla pas, le public ne s'émut point, accidents et faits divers furent accueillis avec indifférence, l'enterrement du richissime banquier Sarès Bey passa inaperçu. Mais le lendemain de cet enterrement, à la suite de quelques démarches effectuées par le capitaine Belval auprès de l'autorité militaire, avec l'appui de la préfecture, un nouvel ordre de choses fut établi dans la maison de la rue Raynouard. Reconnue comme annexe numéro 2 de l'ambulance des Champs-Élysées, elle devint, sous la surveillance de Madame Messarès, la résidence exclusive du capitaine Belval et de ses 7 mutilés. Ainsi, Coralie demeura là toute seule. Plus de femme de chambre ni de cuisinière. Les 7 mutilés suffirent à toutes les besognes. L'un fut concierge, un autre cuisinier, un autre maître d'hôtel. Yabon, nommé femme de chambre, se chargea du service personnel de maman Coralie. La nuit, il couchait dans le couloir, devant sa porte. Le jour, il montait la garde devant sa fenêtre. Que personne n'approche ni de cette porte ni de cette fenêtre, lui dit Patrice. Que personne n'entre. Si seulement un moustique réussit à pénétrer près d'elle, ton compte est réglé. Malgré tout, Patrice n'était pas tranquille. Il avait eu trop de preuves de ce que pouvait créer oser l'ennemi pour croire que des mesures quelconques fussent capables d'assurer une protection absolument efficace. Le danger s'insinue toujours par où il n'est pas attendu. Il était d'autant moins facile de s'engarrer qu'on ignorait d'où venait la menace. Mais Sarès Bey étant mort, qui poursuivait son œuvre? Et qui reprenait, contre maman Coralie, le plan de vengeance qu'il annonçait dans sa dernière lettre? M. Desmalions avait commencé aussitôt son œuvre d'investigation, mais le côté dramatique de l'affaire semblait lui être indifférent. N'ayant pas retrouvé le cadavre de l'homme dont Patrice avait entendu les cris d'agonie, n'ayant recueilli aucun indice sur l'agresseur mystérieux qui avait tiré sur Patrice et Coralie à la fin de la journée, n'ayant pu établir d'où provenait l'échelle qui avait servi à cet agresseur, il ne s'occupait plus de ces questions et limitait ses efforts à l'unique recherche des 810-800 sacs. Cela seul lui importait. Mais nous avons toutes les raisons de croire qu'ils sont là, disait-il, entre les quatre côtés du quadrilatère formé par le jardin et par les bâtiments d'habitation. Évidemment, un sac d'or de 50 kilos n'a pas à beaucoup près le volume d'un sac de charbon du même poids. Mais tout de même, 1800 sacs, cela représente peut-être une masse de 7 à 8 mètres cubes, et cette masse-là ne se dissimule pas aisément. Au bout de 2 jours, il avait acquis la certitude que la cachette ne se trouvait ni dans la maison, ni sous la maison. Lorsque, certains soirs, le chauffeur de l'automobile de Sarès Bey amenait rue Raynouard le contenu des coffres de la banque franco-orientale, et Sarès Bey, le chauffeur de l'automobile et le nommé Grégoire, faisait passer par le soupirail dont les complices du colonel avaient parlé un gros fil de fer que l'on retrouva. Le long de ce fil de fer glissaient des crochets, que l'on retrouva également, et auxquels on suspendait les sacs qui s'empilaient dès lors dans une grande cave exactement située sous la bibliothèque. Inutile de dire tout ce que M. Desmalions et ses agents déployèrent d'ingéniosité, de minutie et de patience pour interroger tous les recoins de cette cave. Leurs efforts aboutirent tout au moins à savoir, et cela sans aucune espèce de doute, qu'elle n'offrait aucun secret, sauf le secret d'un escalier qui descendait de la bibliothèque et dont l'issue supérieure était fermée par une trappe que recouvrait le tapis. Outre le soupirail de la rue Raynouard, il y en avait un autre qui donnait sur le jardin au niveau de la première terrasse. Ces deux ouvertures se barricadaient de l'intérieur à l'aide de volets de fer très lourds, de sorte que des milliers et des milliers de rouleaux d'or avaient pu être entassés dans la cave jusqu'au moment de leur expédition. Mais comment cette expédition avait-elle eu lieu? Se demandait M. Desmalions. Mystère. Et pourquoi cette halte dans le sous-sol de la rue Raynouard? Mystère également. Et puis voilà que Fracri, Bourneuf et consorts affirment que cette fois il n'y a pas eu d'expédition, que l'or est ici, et qu'il suffit de chercher pour l'y découvrir. Nous avons cherché dans la maison, reste le jardin, cherchons de ce côté. C'est un admirable vieux jardin qui faisait jadis partie du vaste domaine où, à la fin du XVIIIe siècle, on venait prendre les eaux de Passy. De la rue Raynouard jusqu'au quai, sur une largeur de 200 mètres, il descend par quatre terrasses superposées vers des pelouses harmonieuses que soulignent des massifs d'arbustes verts et que dominent des groupes de grands arbres. Mais la beauté du jardin provient avant tout de ces quatre terrasses et de la vue qu'elles offrent sur le fleuve, sur les plaines de la rive gauche et sur les collines lointaines. 20 escaliers les font communiquer entre elles et 20 sentiers montent de l'une à l'autre, creusés parmi les murs de soutènement et engloutis parfois sous les vagues de lierre qui déferlent du haut en bas. Ça et là émergent une statue, une colonne tronquée, les débris d'un chapiteau. Le balcon de pierre qui borde la terrasse supérieure est orné de très vieux vases en terre cuite. On y voit aussi, sur cette terrasse, les ruines de deux petits temples ronds qui étaient autrefois des buvettes. Il y a, devant les fenêtres de la bibliothèque, une vasque circulaire au centre de laquelle un enfant lance un mince filet d'eau par l'entonnoir d'une conque. C'est le trop-plein de cette vasque, recueillie en un ruisseau, qui glissait sur les rochers contre lesquels Patrice s'était heurté au premier soir. Somme toute, 3 ou 4 hectares à fouiller, dit M. Desmalions. À cette besogne, il employa, outre les mutilés de Patrice, une douzaine de ses agents. Besogne assez facile au fond et qui devait aboutir à des résultats certains. Comme M. Desmalions ne cessait de le répéter, 1800 sacs ne peuvent pas rester invisibles. Toute excavation laisse des traces. Il faut une issue pour y entrer, pour en sortir. Or, le gazon des pelouses, comme le sable des allées, ne révélait aucun vestige de terre remuée fraîchement. Le lierre, les murailles de soutien, les terrasses, tout cela fut visité inutilement. On trouva de place en place, dans les tranchées que l'on pratiqua, d'anciennes canalisations vers la Seine et des tronçons d'aqueduc qui servaient jadis à l'écoulement des eaux de Passy. Mais quelque chose qui fut un abri, une casemate, une voûte de maçonnerie, quelque chose qui eut l'apparence d'une cachette, cela ne se trouva point. Patrice et Coralie suivaient ses recherches. Pourtant, bien qu'ils en comprissent tout l'intérêt, et bien que, d'autre part, ils subissent encore l'anxiété des heures dramatiques qui venaient de s'écouler, au fond, ils ne se passionnaient que pour le problème inexplicable de leur destin, et presque toutes leurs paroles s'en allaient vers les ténèbres du passé. La mère de Coralie, fille d'un consul de France à Salonique, avait épousé là-bas un homme d'un certain âge, très riche, le comte Odolavitz, d'une vieille famille serbe, lequel était mort un an après la naissance de Coralie. La veuve et l'enfant se trouvaient alors en France, précisément dans cet hôtel de la rue Raynouard, que le comte de la Vitz avait acheté par l'intermédiaire d'un jeune Égyptien, Essarès, qui lui servait de secrétaire et de factotum. Coralie avait donc vécu là 3 années de son enfance. Puis, subitement, elle perdait sa mère. Restant seule au monde, elle était emmenée par Essarès à Salonique, où son grand-père, le consul, avait laissé une sœur beaucoup plus jeune que lui et qui se chargea d'elle. Malheureusement, cette femme tomba sous la domination d'Essarès, signa des papiers, en fit signer à sa petite-nièce, de sorte que toute la fortune de l'enfant, administrée par l'Égyptien, disparut peu à peu. Enfin, vers l'âge de 17 ans, Coralie fut la victime d'une aventure qui lui laissa le plus affreux souvenir et qui eut sur sa vie une influence fatale. Enlevée un matin, dans la campagne de Salonique, par une bande de Turcs, elle passa 2 semaines au fond d'un palais en butte au désir du gouverneur de la province. Essarès la délivra, mais cette délivrance s'effectua d'une façon si bizarre que bien souvent depuis, Coralie devant se demander s'il n'y avait pas eu un coup monté entre le Turc et l'Égyptien. Toujours est-il que malade, déprimée, redoutant une nouvelle agression, contrainte par sa tante, elle épousait un mois plus tard cette Essarès qui déjà lui faisait la cour et qui maintenant, en définitive, prenait à ses yeux figure de sauveur. Union lamentable dont l'horreur lui apparut le jour même où elle fut consommée. Coralie était la femme d'un homme qu'elle détestait et dont l'amour s'exaspéra de toute la haine et de tout le mépris qui lui furent opposés. L'année même du mariage, il venait s'installer dans l'hôtel de la rue Raynouard. Essarès, qui depuis longtemps avait fondé et dirigeait à Salonique la succursale de la banque franco-orientale, ramassait presque toutes les actions de cette banque, achetait pour l'établissement de la maison principale l'immeuble de la rue de Lafayette, devenait à Paris l'un des maîtres de la finance et recevait en Égypte le titre de bey. Telle était l'histoire qu'un jour, dans le beau jardin de Passy, Coralie raconta, ayant ce morne passé qu'ils interrogèrent ensemble, en le confrontant avec celui de Patrice, ni Patrice ni Coralie ne purent découvrir un seul point qui leur fut commun. L'un et l'autre avaient vécu dans des lieux différents, aucun nom ne les frappait d'un même souvenir, aucun détail ne pouvait leur faire comprendre pourquoi ils possédaient l'un et l'autre des morceaux de la même boule d'améthyste, pourquoi leurs images réunies se trouvaient enfermées dans le même médaillon ou collées sur les pages du même album. À la rigueur, dit Patrice, on peut expliquer que le médaillon recueilli dans la maison d'Essarès avait été arraché par lui à cet inconnu qui veillait sur nous et qui l'a assassiné. Mais l'album, cet album qu'il portait dans une poche cousue d'un sous-vêtement. Ils se turent. Patrice demanda, « Et Siméon ?»« Oh, Siméon a toujours habité ici, même du temps de votre mère ?»« Non, c'est un an ou deux après la mort de ma mère et après mon départ pour Salonique qu'il a été chargé par Essarès Bey de garder cette propriété et de veiller à son entretien. » Il était le secrétaire d'Essarès. Je n'ai jamais su ce rôle exact. Secrétaire, non. Confident, non plus, ils ne conversaient jamais ensemble. 3 ou 4 fois, il est venu nous voir à Salonique. Je me rappelle une de ses visites. Oh, j'étais tout enfant et je l'ai entendu qui parlait à Essarès d'une façon très violente et semblait le menacer. De quoi ? Oh, je l'ignore. J'ignore tout de Siméon. Il vivait ici très à part et presque toujours dans le jardin, fumant sa pipe, rêvassant, soignant les arbres ou les fleurs avec l'aide de deux ou trois jardiniers qu'il faisait venir de temps à autre. Et quelle conduite observait-il à votre égard? Mais là encore, je ne puis rien dire de précis. Nous ne causions jamais, et ses occupations ne le rapprochaient guère de moi. Cependant, j'ai eu quelquefois l'impression que, à travers ses lunettes jaunes, son regard me cherchait avec une certaine insistance, et peut-être même avec intérêt. En outre, dans ces derniers temps, il se plaisait à m'accompagner jusqu'à l'ambulance, et il se montrait alors, soit là-bas, soit en route, plus attentif, plus empressé. À tel point que je me demande depuis un jour ou deux. Après un instant d'indécision, elle continua. « Oh, c'est une idée bien vague, mais tout de même. Tenez, il y a quelque chose que je n'ai pas pensé à vous dire. Pourquoi suis-je entré à l'ambulance des Champs-Élysées, à cette ambulance où vous vous trouviez déjà blessé, malade? Pourquoi? Mais parce que Siméon m'y a conduite. Il savait que je voulais m'engager comme infirmière, et il m'a indiqué cette ambulance, où il ne doutait pas que les circonstances nous mettraient l'un en face de l'autre. Et puis réfléchissez, plus tard, la photographie du médaillon, celle qui nous représente ensemble, vous en uniforme, moi en infirmière, n'a pu être prise qu'à l'ambulance. Or, des gens d'ici, de cette maison, Siméon était le seul qui s'y rendit. Vous rappellerai-je aussi qu'il est venu à Salonique, qu'il m'y a vu enfant, puis jeune fille, et qu'il a pu là également prendre des instantanés de l'album. De sorte que, si nous admettons qu'il ait eu quelques correspondants qui, de son côté, vous suivit dans la vie, il ne serait pas impossible de croire que l'ami inconnu dont vous avez supposé l'intervention entre nous, qui vous a envoyé la clé du jardin, que cet ami fut le vieux Siméon, interrompit vivement Patrice, mais l'hypothèse est inadmissible. Mais pourquoi? Parce que cet ami est mort. Celui qui cherchait, comme vous dites, à intervenir entre nous, celui qui m'a envoyé la clé du jardin, celui qui m'appelait au téléphone pour m'apprendre la vérité, celui-là a été assassiné. Aucun doute à ce propos. J'ai perçu les cris d'un homme qu'on égorgeait, des cris d'agonie de ceux que l'on pousse quand on expire. Est-on jamais sûr? Oh, je le suis absolument. Ma certitude n'est atténuée par aucune hésitation. Celui que j'appelle notre ami inconnu est mort avant d'avoir achevé son œuvre. Il est mort assassiné. Or, Siméon est vivant. Et Patrice ajouta, « D'ailleurs, celui-là avait une autre voix que Siméon, une voix que je n'ai jamais entendue et que je n'entendrai plus jamais. » Coralie n'insista pas, convaincue à son tour. Ils étaient assis sur un des bancs du jardin, profitant d'un beau soleil d'avril. Les bourgeons des marronniers luisaient aux pointes des rameaux. Les lourds parfums des giroflées montaient des plates-bandes, et leurs fleurs jaunes ou mordorées, comme des robes de guêpes ou d'abeilles serrées les unes contre les autres, ondulaient au gré d'une brise légère. Soudain, Patrice frissonna. Coralie avait posé sa main sur la sienne en un geste d'abandon charmant, et tout de suite, l'ayant observée, il vit qu'elle était émue jusqu'aux larmes. « Qu'y a-t-il donc, maman Coralie ?» La tête de la jeune femme s'inclina et sa joue toucha l'épaule de l'officier. Patrice n'osa pas bouger pour ne point paraître donner à ce mouvement fraternel une valeur de tendresse qui eût peut-être froissé Coralie. Il répéta, « Mais qu'y a-t-il? Qu'avez-vous, mon ami ?»« Oh » murmura-t-elle, « c'est si étrange. Regardez, Patrice. » Regardez ces fleurs. Il se trouvait sur la troisième terrasse et dominait donc la quatrième terrasse, et cette dernière, la plus basse, au lieu de plate-bande de giroflées, offrait des parterres où s'entremêlaient toutes les fleurs de printemps, tulipes, mères de famille, corbeilles d'argent. Et au milieu, il y avait un grand rond planté de pensées. Là, là, dit-elle en désignant ce rond de son bras tendu, là, regardez bien, vous voyez des lettres. En effet, peu à peu, Patrice se rendait compte que les touffes de pensée étaient disposées de manière à inscrire sur le sol quelques lettres qui se détachaient parmi d'autres touffes de fleurs. Cela n'apparaissait pas du premier coup. Il fallait un certain temps pour voir, mais quand on avait vu, les lettres s'assemblaient d'elles-mêmes et fermaient sur une même ligne trois mots, Patrice et Coralie. Ah, dit-il à voix basse, je vous comprends. C'était si étrange, en effet, et si émouvant de lire leurs deux noms, qu'une main amie avait, pour ainsi dire, semé leurs deux noms réunis en fleurs de pensée. C'était si étrange et si émouvant de se retrouver toujours ainsi l'un et l'autre, liés par des volontés mystérieuses, liés maintenant par l'effort laborieux des petites fleurs qui surgissent, s'éveillent à la vie et s'épanouissent dans un ordre déterminé. Coralie se redressa et dit « Mais c'est le vieux Siméon qui s'occupe du jardin. » « Évidemment, dit-il d'un air un peu ébranlé. Oh, cela ne change certes pas mon idée, mais notre ami inconnu est mort, mais Siméon a pu le connaître, lui. Siméon était peut-être de connivence avec lui sur certains points, et il doit en savoir long. Ah, s'il pouvait parler et nous mettre dans la bonne voie. » Une heure plus tard, comme le soleil penchait à l'horizon, ils montèrent sur les terrasses. En arrivant à la terrasse du haut, ils avisèrent M. Desmalions qui leur fit signe de venir et qui leur dit « Je vous annonce quelque chose d'assez curieux, une trouvaille d'intérêt spécial pour vous, madame, et pour vous, mon capitaine. » Il les mena tout au bout de la terrasse, devant la partie inhabitée qui faisait suite à la bibliothèque. Il y avait là deux agents, une pioche à la main. Au cours des recherches, ils avaient d'abord, comme l'expliqua M. Desmalions, écarté le lierre qui recouvrait le petit mur orné de vases en terre cuite. Or, un détail attira l'attention de M. Desmalions. Le petit mur était revêtu, sur une longueur de quelques mètres, d'une couche de plâtre qui semblait de date plus récente que la pierre elle-même. « Pourquoi ?» dit M. Desmalions. « Oh, n'était-ce pas un indice dont je devais tenir compte ? Alors je fis démolir cette couche de plâtre, et dessous j'en ai trouvé une seconde, moins épaisse, mêlée aux aspérités de la pierre. Tenez, approchez-vous, ou plutôt non, reculez un peu, on distingue mieux. » La couche inférieure, en effet, ne servait qu'à retenir une série de petits cailloux blancs qui faisaient comme une mosaïque encadrée de cailloux noirs, et qui formaient de grandes lettres largement écrites, lesquelles formaient trois mots. Et ces trois mots, c'était encore Patrice et Coralie. « Qu'est-ce que vous en dites ?» interrogea M. Desmalions. « Remarquez que l'inscription remonte à plusieurs années, au moins 10 ans, étant donné la disposition du lierre qui était accroché là. » « Au moins 10 ans, répéta Patrice, lorsqu'il fut seul avec la jeune femme. 10 ans, c'est-à-dire à une époque où vous n'étiez pas marié, où vous habitiez encore à Salonique, et où personne ne venait en ce jardin. Personne, excepté Siméon et ceux qui voulaient bien y laisser pénétrer. » Et Patrice conclut. Et parmi ceux-là, Coralie, il y avait notre ami inconnu qui est mort. Et Siméon sait la vérité. Ils le virent en cette fin d'après-midi, le vieux Siméon, comme ils le voyaient depuis le drame, errant dans le jardin ou dans les couloirs de la maison, l'attitude inquiète et désemparée, son cache-nez toujours enroulé autour de la tête, les lunettes serrées aux tempes. Il bégayait des mots incompréhensibles. La nuit, son voisin, un des mutilés, l'entendit plusieurs fois qui chantonnait. À deux reprises, Patrice essaya de le faire parler. Siméon hochait la tête et ne répondait pas, ou bien riait d'un rire d'innocent. Ainsi, le problème se compliquait, et rien ne laissait prévoir qu'il pût être résolu. Qui les avait, depuis leur enfance, promis l'un à l'autre comme des fiancés dont une loi inflexible a disposé d'avance? Qui avait, à l'automne dernier, alors qu'ils ne se connaissaient pas, préparé la corbeille de pensées? Et qui avait, 10 ans plus tôt, inscrit leurs deux noms en cailloux blancs dans l'épaisseur d'un mur? Question troublante pour deux êtres chez qui l'amour s'était éveillé spontanément et qui tout à coup apercevaient derrière eux un long passé qui leur était commun. Chaque pas qu'ils faisaient ensemble dans le jardin leur semblait un pèlerinage parmi des souvenirs oubliés, et à chaque détour d'allée, ils s'attendaient à découvrir une nouvelle preuve du lien qui les avait unis à leur insu. Et de fait, en ces quelques jours, deux fois sur le tronc d'un arbre, une fois sur le dossier d'un banc, ils virent leurs initiales entrelacées. Et deux fois encore, leurs noms apparurent inscrits sur de vieux murs et masqués par une couche de plâtre que voilait un rideau de lierre. Et ces deux fois-là, leurs deux noms étaient accompagnés de deux dates, Patrice et Coralie 1904, Patrice et Coralie 1907. « Il y a 11 ans, il y a 8 ans, dit l'officier, toujours nos deux noms, Patrice et Coralie. » Leurs mains se serraient. Le grand mystère de leur passé les rapprochait l'un de l'autre, autant que le profond amour qui les emplissait et dont ils s'abstenaient de parler. Malgré eux, cependant, ils recherchaient la solitude, et c'est ainsi qu'un jour, 2 semaines après l'assassinat de Sarès Bey, comme ils passaient devant la petite porte de la ruelle, ils se décidèrent à sortir et à descendre jusqu'aux berges de la Seine. On ne les vit point, les abords de cette porte et le chemin qui y conduit étant cachés par de grands buis, et M. Desmalions, explorant alors avec ses hommes les anciennes serres situées de l'autre côté du jardin, ainsi que la vieille cheminée qui avait servi aux signaux. Mais dehors, Patrice s'arrêta. Il y avait, presque en face, dans le mur opposé, une porte exactement semblable. Il en fit la réflexion et Coralie lui dit « Oh, cela n'a rien d'étonnant. Ce mur limite un jardin qui dépendait autrefois de celui que nous venons de quitter. » « Et qui est-ce qui l'habite ?»« Oh, personne. La petite maison qui le domine et qui précède la mienne, rue Renoir, est toujours fermée. » Patrice murmura « Même porte, même clé peut-être ?» Il introduisit dans la serrure la clé rouillée qui lui avait été adressée. La serrure fonctionna. « Allons-y, dit-il, la suite des miracles continue. Celui-ci nous sera-t-il favorable ?» C'était une bande de terrain assez étroite et livrée à tous les caprices de la végétation. Cependant, au milieu de l'herbe exubérante, un sentier de terre battue, où l'on devait passer souvent, partait de la porte et montait en biais vers l'unique terrasse sur laquelle était bâti un pavillon aux volets clos, délabré, sans étage, surmonté d'un tout petit belvédère en forme de lanterne. Il avait son entrée particulière dans la rue Renoir, dont une cour et un mur très haut le séparaient. Cette entrée était comme barricadée de planches et de poutres clouées les unes aux autres. Ils contournèrent la maison et furent surpris par le spectacle qui les attendait sur le côté droit. C'était une espèce de cloître de verdure rectangulaire, soigneusement entretenu, avec des arcades régulières taillées dans des haies de buis et d'ifs. Un jardin en miniature était dessiné en cet espace où semblaient s'accumuler le silence et la paix. Là aussi, il y avait des ravenelles fleuries et des pensées des mères de famille. Et quatre sentiers qui venaient des quatre coins du cloître aboutissaient à un rond-point central où se dressaient les cinq colonnes d'un petit temple ouvert, construit grossièrement avec des cailloux et des moellons en équilibre. Sous le dôme de ce petit temple, une pierre tombale. Devant cette pierre tombale, un vieux prie-dieu en bois, au barreau duquel était suspendu à gauche un Christ d'ivoire, à droite un chapelet composé de grains en améthyste et en filigrane d'or. « Coralie, Coralie !» murmura Patrice, la voix tremblante d'émotion. « Mais qui donc est enterré là ?» Ils s'approchèrent. Des couronnes de perles étaient alignées sur la pierre tombale. Ils en comptèrent 19 qui portaient les 19 millésimes des 19 dernières années. Les ayant écartés, ils lurent cette inscription en lettres d'or usées et salies par la pluie. « Ici reposent Patrice et Coralie, tous deux assassinés le 14 avril 1895. Ils seront vengés. »